Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Pauline, la pauvre Pauline, toujours prisonnière dans l'étable, elle est toute maigre, vieillie. Elle ressemble à une vieille. Son visage s'est rapetissé, osseux. Son corps est squelettique. Elle ressemble à une vieille. Elle lutte à cause du froid, de ses sabots qu'elle met pieds nus. Sa robe est déchirée. Usée, sale. Apolline sent mauvais. Elle sent la bouse de vache, l'urine. Elle n'a rien pour se laver. De temps en temps, à cachette, elle se nettoie avec du lait de vache. Ça arrive à enlever lorsque la crasse n'est pas trop, pas trop vieille. Et puis, elle sent le lait. Elle fait tout dans l'étable. Ses excréments dorment et mange. À 5 heures du matin, on la réveille. C'est cette garce de Madame Pipe qui vient lui donner le seau pour la traite et après la traite, le foin pour les vaches. Apolline a pris l'habitude de traire les vaches et le fait automatiquement. Puis, une fois qu'elle a fait son travail, on lui apporte sa gamelle de nourriture. Un mélange de restes de tout. Ça a une drôle de couleur et d'odeur, mais lorsqu'on a faim, on ne regarde pas tant. Apolline a froid, tousse, a mal de partout. Voilà des mois que personne ne lui parle. Elle a perdu la notion de parole. Elle est même plus capable de se plaindre. Dans sa tête, mal nourrie, c'est un cauchemar qu'elle vit, incompréhensible et cruel. De temps en temps, sans qu'elle sache pourquoi, Madame Pipe la fouette. Et la laisse KO. Tu n'as qu'à crever, salope. Tu arriveras bien crevé, t'es coriace, mais moi aussi. Et elle sort. Ses cris, pendant qu'on la bat, appelle au secours. Personne ne vient à son aide. Ses cris, ses appels font partie du bruit du coin. C'est comme les loups que l'on entend la nuit. On n'y fait plus attention. Les domestiques, les paysans, sont des gens rudes, que rien n'émeut. Surtout pas les cris d'une femme, peut-être celui d'une vache ou d'une chèvre, mais une femme, bouf, c'est normal qu'elle souffre et reçoive des coups, surtout une femme de la ville, une étrangère, une traînée, comme elles le sont toutes, sauf celle du village, et puis le maître et Madame Pipe sont de braves gens, des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Alors, Apolline, malgré ses mauvais traitements, sa vie inhumaine continue à vivre. Car malgré elle, elle a la force de sa jeunesse, malgré que physiquement, elle ne le soit plus. Une lumière est en elle qui lui dit de lutter pour ne pas descendre, pour ne pas s'effondrer. Monsieur le Marquis ne vient jamais la voir. Elle entend de temps en temps sa voix qui donne des ordres dans la cour. Elle a nulle envie de le voir, cet homme qui la traite et la trompe volée. Le froid augmente et Apolline s'enfonce dans la paille pour se préserver. Malheureusement, la paille est gelée. Apolline tremble jour et nuit. Un jour que Madame Pipe lui donne les seaux pour la traite, elle a le courage de lui dire « Froid !»« Bientôt, tu auras chaud, ma belle. Tu vas danser. Tu vas voir. » Elle lui donne un coup de pied dans le ventre. Oh! Ce qui fait tomber à la renverse Apolline. Puis Madame Pipe quitte l'étable. Une nuit, Apolline est couchée dans le foin. Elle est réveillée par la porte qui s'ouvre. C'est Madame Pipe. Elle tient à la main une torche enflammée. « Où es-tu ?» Elle regarde autour d'elle et voit Apolline couchée sur le foin. Elle lance sa torche sur elle et se sauve en courant en fermant la porte. La vieille n'a pas s'emprisonner. Lancer fort la torche. Elle était près du foin, mais pas sur Apolline. Apolline voit le foin prendre feu, sort du foin et court vers la porte. Mais la porte a été poussée et bien poussée, fermée. Et se retourne, le foin s'enflamme, a fait de grandes flammes, avec qui touche le plafond, les poutres en bas du plafond. Les vaches meulent et trépignent du pied. Le feu prend de l'ampleur. Apolline panique. Elle cherche une issue. Crie au secours. Bouge la porte. Le feu grandit. Elle se sent perdue. Elle a cet instinct. Cet instinct de conservation qui, à cet instant, l'a fait redevenir ce qu'elle était. Ses frères lui reviennent. Elle crie de plus en plus fort, au secours, comme la porte. La porte s'enflamme, s'effondre sur le sol. Elle se sent envahie. Le feu est tombé évanoui sur le sol. La porte s'ouvre. Des hommes accourent avec des seaux. Deux hommes traversent les flammes et emportent Apolline évanouie. Elle reste dans le noir, les yeux fermés, sans rien ressentir. Petit à petit, elle se réveille, voit contre elle des visages d'hommes qu'elle ne connaît pas. Elle a chaud. Elle sent de la douceur autour d'elle, l'impression de revivre. Un homme d'un certain âge lui demande « Vous êtes les mieux ?» Elle fait oui la tête. Jamais elle s'est sentie aussi bien. Un autre homme lui demande « Vous êtes bien Madame Apolline de Saint-Auban ?» Oui. Que faisiez-vous dans cette grange ? Mon mari m'a retenue prisonnière. Le monsieur lui dit, votre mari a été arrêté ainsi que sa gouvernante. D'après les témoins, c'est eux qui auront volontairement mis le feu à la grange. Oui, Madame Pipe est entrée et m'a jeté une torche enflammée. Vous allez vous reposer, madame, et Nous reviendrons plus tard. Les gens s'éloignent. Apolline s'endort. Elle se sent bien. Bien. Elle ne veut rien savoir. Une heure plus tard, on vient lui apporter un bol de bouillon. Elle reprend des forces et demande à cette domestique qui la sert avec respect : pourquoi m'avez-vous laissé maltraiter par mon mari ? Pourquoi n'avez-vous rien fait ? Lorsque j'irai mieux, tous les domestiques seront renvoyés pour ne pas m'avoir aidé. La bonne ne dit rien. Elle sort avec le bol. Apolline reprend des forces. Et ce que dit qu'elle peut quitter son pays de malheur et retourner chez ses parents. Un médecin vient la voir une fois par jour. Il lui donne des fortifiants, lui soigne ses plaies et lui prépare de la nourriture. Apolline reprend des forces. Elle est jeune. Une semaine plus tard, un commissaire vient la voir avec un gendarme et lui dit:
votre mari a avoué, il voulait vous faire mourir pour se remarier. Lui et sa gouvernante sont en prison et sera jugé.
Apolline lui dit: je veux le divorce,
dans ce cas vous sera sûrement accordé.
Apolline reprend des forces et ne pense qu'à une chose: partir. Les jours passent. Elle n'a rien dit à sa famille pour ne pas les effrayer, mais leur a écrit qu'elle va bien et souhaite revenir chez eux. Deux semaines plus tard, son mari a été trouvé mort d'une crise cardiaque dans sa cellule. L'âge. Elle est veuve enfin. Décide de vendre ses biens et de rentrer à Lyon. Je déteste ce pays. Une fois rétablie, elle met en vente tous ses biens avec l'aide d'un notaire, ce qui lui fait une très bonne somme, car en plus elle a ses actions, elle a des immeubles un peu partout, et à Lyon son hôtel qu'elle ira vivre lorsqu'elle ira mieux. Une fois remise, fraîche et redevenue jeune et belle, riche, très riche, elle retourne à Lyon. Ouf! Elle se dit, dans la diligence qui la ramène, car il n'y a pas de train dans ce pays perdu, qu'elle dira tout à ses parents. Elle est heureuse, elle va pouvoir vivre comme elle le désire, riche, indépendante, et auprès de ses frères, qu'elle aime tendrement. Le voyage se fait dans la joie au corps. Elle arrive chez ses parents, c'est sa mère qui la voit arriver avec tous ses bagages.
« Mais que t'arrive-t-il ? » ?
« Bonjour mère, je suis très heureuse d'être de retour. » Elle embrasse sa mère et lui dit:
« Vous n'avez pas lu les nouvelles ? Pourtant tous les journaux en ont parlé, en tout cas cette Bourgogne. Je suis veuve, libre et riche. Mon mari est mort d'une crise cardiaque. »
« Tu pourrais avoir un peu de respect pour sa mort. »
« Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Dans quel état il me faisait vivre ce saligaud ? Dans une étable, avec les vaches, à coups de fouet, et je devais travailler comme une esclave. Je ne te crois pas.
J'y ai pensé. Je te ferai lire le rapport de police. En attendant, je retourne à ma chambre. Je peux ?
Oui, bien sûr. Mais tu m'as l'air bien excité. C'est l'air de la liberté.
Et elle monte à sa chambre. Et, 1 heure plus tard, elle sort de sa chambre pour retrouver sa mère au salon avec le rapport de police.
Entrez.
Sa mère est assise près de la cheminée. Elle va vers elle et lui tend le rapport. Tenez, mère. La mère le prend et le lit. Apolline va s'asseoir à côté d'elle. Une fois que la mère l'a lu, elle lui dit :
C'est incroyable, ma pauvre petite. Je comprends pourquoi nous n'avions pas de tes nouvelles. Comment te sens-tu maintenant ?
Mieux, je mange bien, reprends des forces, mais je dois être suivie pendant quelque temps par un médecin, à cause de mes plaies et de mon état général.
Tu iras voir le bon docteur Poirier.
Ah non alors, surtout pas.
Mais avant de partir, tu le voyais presque toutes les semaines.
Je ne veux plus le voir. J'irai jamais chez lui. Votre bon docteur est un homme dégoûtant. Je vous conseille de ne plus le revoir.
Qu'a-t-il fait ?
J'ai mieux pas vous le dire, mère. Et permettez-moi de n'en parler à personne, même pas au docteur.
Je te le promets, mais je ne te comprends pas.
Ce n'est rien, c'est du passé. Son père a appris son retour et sa femme l'a mise au courant des horreurs qu'elle a vécues. Apolline va voir son frère Charles-André dans sa chambre. Entrez. Te voilà de retour. Et oui, tu vois, veuve, riche et libre. Félicitations. Elle s'approche de lui, se penche et l'embrasse. Puis s'assoit sur le rebord du lit. Elle lui dit, je vois que tu restes toujours le même, enfermé dans ta chambre. Et oui, petite sœur, après une journée de travail à écouter les enneries des locataires, on a envie de calme. Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? Tu es en visite ?
Non, mon cher, je suis venu définitivement.
Et qu'as-tu fait à ton vieux ?
Il a décédé.
Ça n'étonne pas de toi.
Je suis pour rien, et d'ailleurs c'est lui qui a failli avoir ma peau.
Charles-André lui dit, je ne savais pas que les vieux avaient autant de tempérament que ça.
Si tu savais ce qu'il m'a fait...
Elle lui raconte son histoire. Une fois qu'elle est finie, Charles-André lui dit « Voilà un bon sujet de roman. » Elle lui dit « Si tu fais de mon histoire un roman, je te demande un pourcentage. »«
D'accord. De toute façon, il ne se vendra pas. »
Elle lui demande « Et Jules ?»
Jules est parti passer quelques mois au pays helvétique, en Suisse.
Elle lui demande « Qu'est-ce qu'il était à faire là-bas » ?»«
Son ami Sylvain Dupin est malade et a besoin de changer d'air.
Alors Jules est parti avec lui. Les parents ont été d'accord parce que monsieur a réussi ses examens.
Elle est heureuse parce qu'elle se dit que Sylvain est avec Jules, donc elle pourra le revoir. Elle lui dit,
il est gentil Sylvain.
Jean-André la regarde et lui dit, je ne te suffis pas.
Elle le regarde bien et lui dit,
tu es tellement occupé par d'autres choses.
Il lui caresse le dos. Elle sourit, s'allonge à côté de lui. Il s'allonge sur elle, l'embrasse sur le visage.
C'est bon de te retrouver, petite sœur. En Suisse, le temps est détestable. Il fait gris, froid. Lorsqu'il ne neige pas, il pleut. Les deux amis restent enfermés dans leur chalet et essayent de se distraire comme ils peuvent. Lire, jouer aux dames, dessiner, écrire. Mais Jules sent que Sylvain s'ennuie et qu'il a besoin de changer. Il passe des heures à regarder le paysage morne et triste et à soupirer. Malgré leur tristesse, Jules et lui s'entendent bien. L'escapade de Marinette est oubliée. Un matin, en prenant leur petit déjeuner, Sylvain lui dit « Si l'on rentrait, je suis guéri et maintenant il va faire de plus en plus froid. » Je lui dis « Comme tu voudras. » Sylvain le regarde bien et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Bien, je suis tout de même triste de partir, car à Lyon nous nous verrons moins. J'étais heureux d'être avec toi. » Sylvain lui dit « Moi aussi. » Mais nous nous reverrons souvent. Tu es mon meilleur ami. Merci, je t'aime beaucoup. Peut-être un peu trop, Sylvain lui dit. L'on n'aime jamais assez. Avant, dans la matinée, ils ont prévenu le propriétaire qu'il quittait le chalet le lendemain et ont commencé à faire leurs bagages. Avant de partir, Jules a bien regardé autour de lui. Il a un petit pincement au corps. « Je suis triste de quitter cette maison. C'est malgré moi. Nous avons tellement fait de choses ensemble. Nous étions comme deux frères. » Sylvain l'embrasse sur la joue et lui dit « Merci. Mais ne sois pas triste. Je pars avec toi et nous serons très proches. » Jules, surpris, lui dit « Oui, mais nous ne vivons pas ensemble. » Et ils sont partis sous la neige. Lorsqu'ils ont pris le train, il était presque vide. Le compartiment sans l'humidité, le tabac, le vêtement mouillé, avec cette chaleur particulière, tout ça donne mal au corps à Jules. Durant tout le trajet, il a envie de vomir. Le bruit du train, le paysage qui défile lui donne le vertige. Sylvain s'en aperçoit. Tu n'es pas bien? Je suis incommodé par l'odeur, mais ça passera. Le trajet lui semble un cauchemar de bruit, d'images qui défilent. Il a l'impression que ce qu'il ressent symbolise la fin d'un paradis perdu, la fin du bonheur avec Sylvain. Sans que le retour va lui apporter quelque chose de mauvais, de dangereux, qui va se séparer à Sylvain. Il le regarde. Sylvain lit calmement son roman. Il a l'air calme et tranquille. Tellement beau. Oui, beau. De la beauté des purs. De la gare, piano fouillante. Ils sont épuisés, mal de partout. Jules va d'abord déposer Sylvain. Il a envie de pleurer. Le fiacre s'arrête devant son immeuble. Sylvain lui dit « Au revoir et merci, Jules lui tient fortement la main et lui dit « Nous nous reverrons ?» Sylvain le regarde surpris et lui dit « Oui, bien sûr. Passe me voir quand tu veux. Tu seras toujours bien reçu. » Jules a fortement envie de pleurer. Sylvain lui sourit, donne un baiser sur la joue. Nous sommes mes trois frères, il faut que j'y aille. Il dégage sa main tout doucement et sort du fiacre. Jules le voit entrer dans son allée et dit du cocher avec les bagages. Puis le cocher revient et ils partent. Jules arrive vers chez lui sous une pluie battante. Il sonne au portail. Le domestique lui ouvre.
« Oh, monsieur Jules, vous auriez dû prévenir. On aurait été vous chercher à la gare. »«
Bonjour, Martin. » Le domestique prend les bagages et ils vont jusqu'à la maison.
Une fois rentré à la maison, Jules demande.
« Ma mère est là ?»«
Oui, monsieur. Elle est au salon. »«
Bien. » Je vais la voir.
Il quitte son manteau qui donne au domestique, qui va le mettre sur le pantalon du hall d'entrée. Et pendant que Jules va au salon, le domestique monte les bagages à sa chambre.
Entrez!
Sa mère est assise et lit le journal. Lorsqu'elle le voit arriver, elle se lève pour aller vers lui.
Comment, tu es de retour ?
Oui, mère.
Il s'embrasse. Elle lui dit :
Tu aurais dû me prévenir.
Il lui dit :
C'est-à-dire que notre départ s'est fait un peu précipitamment. Il faisait tellement mauvais temps que nous avons préféré partir.
Sylvain est guéri, il se porte comme un charme. La dégradation du temps l'aurait peut-être fait rechuter. Tu sais, la montagne, c'est beau l'été, mais l'hiver, c'est infect.
Tu as raison d'être revenu. Ton père sera heureux de te revoir. Pour la rentrée prochaine, il t'a trouvé une place de professeur au lycée privé Saint-Michel. Te fais pas de soucis. Il aura le temps de t'expliquer tout ça. Ta sœur est de retour.
Ah, elle est en visite?
Non, elle est revenue définitivement. Elle est veuve. En fait, il lui est arrivé une chose horrible.
Jules sourit et lui dit « Je plains le mari ?»«
Tu n'y es pas du tout. C'est elle qui est à plaindre. Je t'expliquerai tout ça. Une histoire très regrettable. La pauvre petite a beaucoup souffert. »
Jules a vu sa sœur qui lui a raconté son histoire et après le dîner, elle s'est assise à côté de lui au salon et lui a demandé
« Et Sylvain, comment va-t-il ?»«
Eh bien, monsieur, je te remercie. Je croyais que tu ne t'intéressais pas à lui. » Elle lui répond « Je trouve gentil. » Jules se dit que sa sœur va chercher à séduire Sylvain et va le lui prendre et lui retournera sous sa coupe. Elle retombera amoureux d'elle. Le danger vient de là. Il ne faut pas qu'il se voie. Il lui dit, Sylvain t'a complètement oublié et je crois que tu ferais mieux de chercher ailleurs. Elle lui dit, mais je ne suis pas pressé. Je viens de retrouver ma liberté et je tiens à en profiter. Les jours passent. Jules a vu son père qui lui a parlé de la place de professeur, mais ce sera pour la prochaine année scolaire. En attendant, Jules essaye d'écrire. Il cherche une histoire romanesque entre deux garçons. Il sait que le sujet doit être traité avec délicatesse à cause de son côté particulier. Bien sûr, les héros seront lui et Sylvain. Un soir, à sa table de travail, dans sa chambre, il se dit il faut que c'est l'air d'un conte et que ça se passe dans l'irréalité. Dire que ce sont deux amis d'enfance, comme cela leur intimité paraîtra moins immorale. Il commence à résumer grossièrement son histoire. Deux amis d'enfance, Yves et Gilles, vont vivre à la montagne parce qu'ils sont nobles et que la révolution gronde à Paris. Ils sont recherchés comme tous les aristocrates. Yves et Gilles ne veulent pas quitter la France parce que s'ils disent que c'est leur pays et que son pays, dans les bons ou dans les mauvais jours, on doit y rester. C'est comme si l'on était marié à une personne pour le meilleur et le pire. Ils ont tous deux les mêmes idées politiques. Se sont connus depuis toujours et Yves ne peut se passer de Gilles. C'est comme s'ils étaient une partie de lui-même. Tout enfant, leurs parents étaient amis. Ils étaient souvent ensemble et ont souvent dormi dans le même lit. Même à l'âge adulte, cela leur arrive. Yves est habitué à la peau de Gilles, son odeur, sa douceur. Yves et Gilles se connaissent à fond et n'ont pas de secret, ni pour le corps, ni pour le cœur. Ils vivent retirés en montagne, isolés de tout. Cette année-là, l'hiver est de plus en plus froid, il gèle. Un après-midi, ils trouvent dans une grotte où ils sont abrités une jeune fille d'une extraordinaire beauté prise dans un bloc de glace. Elle est allongée et semble dormir. Gilles veut tout de suite la prendre et la sortir du bloc où elle est. Yves lui dit que ce n'est pas possible, elle doit être morte de froid. Mais Gilles tient bon. Cette entêtement ne plaît pas à Yves. Il y voit un danger. Puisque Gilles le veut, ils amènent le bloc de glace chez eux, tiré par des cordes et glissé sur le sol gelé. Une fois chez eux, ils décident de le mettre dans une des chambres. Ils mettent à terre des tissus et posent le bloc dessus. La belle endormie n'a pas bougé. Yves lui dit qu'elle ne se réveillera jamais qu'ils ont amené un cadavre pris dans un bloc de glace. Les jours passent, les deux amis vont voir la femme endormie. La glace petit à petit fond. Yves voit que Gilles n'est plus le même. Il fait moins attention à lui, vit comme dans un rêve. Yves voit que Gilles reste de plus en plus longtemps près de la femme sous la glace. Lorsqu'il est près de lui, il voit que son visage est comme hypnotisé par la femme. Cela énerve Yves. Il a peur de perdre son ami. Et au fur et à mesure que la glace fond, il prend peur car il se dit « si elle allait revenir à la vie, Gilles ne vivrait que pour elle. » Cela le rend malade. Gilles ne fait plus attention à lui. Il pense qu'à la femme. Il a peur et reste le plus souvent près du bloc de glace. Il ne veut pas si elle reprend vie. La glace fond à vue d'œil. Gilles est de plus en plus excité. Yves a de plus en plus peur. Il se dit « je dois faire un geste pour préserver notre amitié ». Un matin, il est seul dans la chambre. Il ne reste plus qu'une mince couche de glace sur le corps. Cette couche fond petit à petit. Yves tremble. Il lui semble que la femme remue un peu. « Elle est en vie », pense-t-il. « Il faut que je le fasse ». Il prend son épée qui tenait près de lui et l'enfonce dans la poitrine de la femme qui ne réagit pas. Son visage, ses lèvres sont blanches comme la neige. Au fur et à mesure qu'elle a fondu, elle a perdu ses couleurs. La porte s'ouvre et Gilles apparaît. Il voit l'épée de son ami dans la poitrine de la femme. Il pousse un cri. « Pourquoi tu fais ça? Tu l'as tué !» Et il se sauve en courant. Yves lui court après et lui crie « Elle était morte! Je te jure que j'ai tué une morte !» Gilles se sauve en courant, sort dehors, Yves le suit. Gilles court, Yves le perd. Il marche au hasard pour le retrouver, plein de remords. Il pense qu'il a perdu son amour. Il le cherche pendant des heures et des heures. La nuit a tombé, il fait de plus en plus froid. D'épuisement, il s'allonge dans une grotte. Il grelotte et le froid le prend. Il ne peut plus penser. Il est comme paralysé. Son corps se raidit et petit à petit, il perd conscience. Gilles, qui l'a cherché, le retrouve au petit matin dans un bloc de glace. Gilles pense que c'est sa punition et décide de le laisser ainsi. Des jours plus tard, et même des mois, alors qu'il se promène dans la forêt, il se trouve face à face avec ce qui a été son ami, blanc comme la mort. Cette rencontre lui fait peur et se met à courir dans la forêt. Il court et à chaque fois qu'il tombe sur son ami, à un carrefour, il est entouré de glace, de blocs de glace qui reflètent son image. Il panique, court dans tous les sens et tombe sur son ami. Il est comme pétrifié. Il tombe à la renverse. Les blocs de glace se sont fermés sur lui et sur son ami. Voilà, Jules a fini son résumé. Il va pouvoir écrire en décrivant bien les rapports des deux amis. Jules, comme à son habitude, écrit surtout la nuit. La journée, il se promène. Il a laissé Sylvain reprendre ses habitudes et ne l'a pas dérangé pendant 2 semaines. Puis Sylvain est venu le chercher. Ils ont recommencé leur rendez-vous pour le théâtre, concert ou discuter chez Sylvain. Apolline parle peu de Sylvain. Elle reste discrète. Elle n'est pas sûre de le vouloir. Le temps passe. Jules a fini d'écrire son roman. Il cherche un éditeur. On lui dit que c'est trop bien écrit et trop romantique, fantastique. Les gens veulent des histoires d'amour modernes. Jules ne se démoralise pas. Il continue à le présenter. Il fait lire son roman à Sylvain, qu'il a trouvé très beau, de romantisme élégant. Il demande à Jules dans sa chambre. C'est notre séjour en Suisse qui t'a donné l'idée de cette histoire ? Jules lui dit, oui, en partie. Sylvain lui dit, tes deux héros ont un comportement bizarre ensemble. Cela paraît difficile à croire, cette amitié trop forte. Cela ressemble à des héros de vieux romans. Jules est triste et lui dit, tu ne crois pas à une amitié comme celle-là ? J'y crois pas vraiment. Elle a un côté féminin qui me gêne un peu. Jules est de plus en plus triste. Son ami vient de lui dire, sans qu'il s'en rende compte, qu'il refuse son amitié, son amour. Sylvain le voit triste et lui dit, « Ne sois pas triste. Je t'ai pas dit que le livre ne me plaisait pas. Bien au contraire, je le trouve très beau, le comportement irréel des personnages va très bien avec l'histoire et que si tu avais fait autrement, il y aurait eu un décalage avec l'action fantastique. Je te jure que j'aime le livre, Jules. Il est vraiment très beau. Les réserves que j'ai eues ne sont que d'ordre personnel, simplement pour te dire que si j'étais l'un des deux héros, je n'aimerais pas le comportement de l'autre. Mais le livre, je l'aime. Jules est très triste, car les deux héros sont eux deux, mais il le cache pour pas troubler son ami. Il sourit et lui dit, j'en suis heureux que cela te plaise, car si je le fais éditer, j'ai l'intention de te le dédicacer. Merci, j'en suis très flatté et un peu honteux, car je n'en suis pas digne. Je ne suis pas dit qu'on dédicace un si beau livre. il fait lire son livre à sa sœur, qui, après l'avoir lu, lui dit « Il a dû s'en passer de drôles de choses durant ce séjour en montagne. » Julie est rouge. Elle lui demande « Si une jeune fille l'aimait, elle serait glacée par votre comportement. » « Jules, fais attention, tu fais fausse route. Il est temps de penser à ton avenir et de vivre comme les autres. Pour cela, tu dois aimer ce que les autres garçons aiment. » Il lui dit « C'est bien de toi, ça. Tu t'en bourgeoises maintenant ? Avec les idées que tu avais avant, cela m'étonne. » Elle lui répond « Je suis toujours la même. C'est pour toi que je le dis. N'oublie pas que tu vas enseigner dans un lycée. Je le sais. » Mais ma vie privée est à moi. Les jours passent. Après ce que vient de lui dire Apolline, Jules semble gêné et a peur que l'on découvre ce qu'il est vraiment. Alors il décide de ne pas faire publier son livre et de faire attention à ce qu'il fait et dit, surtout devant sa sœur qui semble l'épier. Elle a raison. Si mon père apprenait quelque chose et que lorsque je serai au lycée, je dois rester vigilant, car une fois professeur, je dois être irréprochable. Autrement, c'est la mise à la porte avec la honte et une sentence. Tout Lyon le saura. Je dois garder mon amour pour Sylvain secret. Sylvain et lui s'entendent bien. Sylvain le prend pour son frère et même mieux, car il lui dit tout. Ils sont bien ensemble. La mère de Sylvain trouve enfin touchante cette amitié. Un soir, elle dit à Jules « J'espère que votre amitié durera toute la vie. » « Merci, madame. » Jules est heureux. Tant pis s'il ne peut dévoiler son amour et qu'elle doit rester à l'intérieur. Avoir des rapports plus intimes physiquement, cela lui est impossible. Il a ce qu'il a de plus précieux chez Sylvain, son amour, sa foi, sa confiance en lui. Il se donne à Jules sans crainte, presque pure. Le temps passe. Le printemps est enfin arrivé, capricieux, mais il est là. Ouf ! Adieu le grand froid, la neige. Un après-midi, que Sylvain et Jules sont dans la chambre de Sylvain à discuter. On a frappé à la porte. Sylvain dit d'entrer. C'est sa mère qui lui dit « J'ai porté une personne que j'aimerais vous présenter. » Sylvain demande « Qui est-ce ? » « Une personne que tu ne connais pas. » Sylvain dit à Gilles, « Allez leur dire bonjour à la personne. » Et ils sortent de la chambre pour aller au salon. Là, ils trouvent une toute jeune fille qui semble grande, mince, blonde, cheveux longs, avec un charmant petit visage, habillée d'une robe bleue, bien sage. La mère de Sylvain fait les présentations. « Messieurs, je vous présente Patricia Dutheuil. Voici mon fils Sylvain et son ami Jules Beaumandin. »« Messieurs, » la mère dit, « Bon, asseyons-nous et prenons le thé. » Ils s'assoivent, la mère à côté de Patricia, Sylvain en face d'elle. Jules voit avec tristesse que Sylvain dévore des yeux la jeune fille. Il se dit, « J'aurai toujours comme concurrence une des filles. » La mère leur dit « Patricia est la fille d'une de mes amies qui est partie en Australie avec ses parents et s'est mariée là-bas. Patricia est née en Australie. Comme elle désire poursuivre ses études, sa mère l'a envoyée en France et bien entendu à Lyon, puisque c'est son pays où se trouve sa famille. Elle habite chez une vieille tante, pas très loin d'ici, et viendra souvent me voir. J'ai pensé à toi, Sylvain. Puisqu'elle ne connaît personne à Lyon, si tu pouvais la distraire un peu, j'en serais enchanté. Merci. » Jules est très triste et se dit que sa mère manigance quelque chose. Elle veut peut-être le marier. On ne sait jamais avec les mères. Sylvain demande à la jeune fille. Vous faites quoi comme étude, mademoiselle? Elle répond. J'aimerais être professeur de français dans mon pays. Je suis venu ici, c'est pour apprendre plus facilement la langue. Je suis inscrit à l'université. J'aurais préféré celle de Paris, mais mes parents ont voulu que je sois à Lyon, Sylvain lui dit. Vous verrez, la vie ici est aussi très agréable, moins brillante qu'à Paris, mais tout aussi cultivée. Vous aimez quoi? J'aime beaucoup la peinture, la musique, les livres aussi. Sylvain lui demande. Vous n'aimeriez pas l'électricité aussi? Qu'est-ce que c'est? La mère de Sylvain lui dit. Un dada de mon fils. Il fait des expériences de fluide électrique. C'est un bricoleur. L'armoire de sa chambre est pleine de choses bizarres. Il faut bien qu'il s'amuse. Plus tard, il n'aura plus le temps à ces choses. Une fois que le thé est pris, la jeune fille partit en promettant de revenir bientôt. Sylvain demanda à Jules. Comment la trouves-tu? Jules hausse ses épaules. Sylvain lui dit. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Et tu as vu les beaux yeux bleus profonds? Jules se dit tristement. Voilà la chose lancée. La mère doit être contente. Son fils va faire comme tout le monde. Les jours passent. Chaque fois que Jules voit Sylvain, Sylvain lui parle de Patricia. Elle a dit ceci, elle a fait cela, elle a osé lui dire ceci et cela. Jules ne dit rien et Sylvain ne se rend pas compte. Jules est de plus en plus déprimé. Il ne sort voir Sylvain qu'une heure ou deux chez lui. Ils ne sortent plus ensemble, Sylvain sort avec Patricia. Jules se dit, Sylvain est prisonnier et est dans une toile d'araignée. Puis, petit à petit, il voit de moins en moins Sylvain. Un jour, il va chez lui. Il est absent et c'est sa mère qu'il reçoit dans son salon. Asseyez-vous un moment. Puisque vous êtes venu, vous n'allez pas repartir tout de suite. Vous êtes le meilleur ami de Sylvain et je vais vous le dire. Je suis très heureuse. Mon fils est tombé amoureux d'une gentille jeune fille. Ils font un très beau couple. Cela fait seulement 3 mois qu'ils ont fait connaissance et ils ne se quittent plus. Je crois que mon fils va faire sa déclaration. La famille de la jeune fille est d'accord. Nous l'avons souhaité. Et vous, Jules? Jules ne dit rien. Elle lui dit, à vous aussi, cela vous arrivera. Et ne craignez rien. Vous serez toujours son meilleur ami. Du café? Oui, merci. Jules tremble et essaye de cacher son trouble. Le café brûlant le calme un peu. Deux jours plus tard, il rencontre Sylvain par hasard dans la rue. Sylvain lui sourit et lui dit « Salut mon vieux, comment vas-tu ? Ça va ? On ne se voit plus ?» Sylvain lui dit « C'est-à-dire que je suis très pris avec Patricia. Nous allons voir des tas de choses. » Et puis peut-être que, je ne sais pas, mais nous nous plaisons beaucoup. Jules a mal et se dit qu'il est pris. Il lui dit, si tu veux, l'on peut marcher un peu dans le parc, qui est à deux pas, il fait beau. Oui, je veux bien. Ils entrent dans le parc, le grand parc, dit parc de la Tête d'Or. Il n'y a presque personne dans les allées. Je lui demande, alors, tu veux te marier?
Oui.
Tu ne trouves pas que c'est un peu rapide?
Tu la connais à peine, Sylvain lui dit.
Dès que je l'ai vue, j'ai su de suite. J'ai ressenti quelque chose pour elle.
Je lui dis, mais le mariage c'est quelque chose de sérieux, c'est pour toute la vie. On ne fait pas ça d'un coup de tête. Et parce que l'on trouve jolie une personne, tu sais, la beauté ne dure pas toujours.
Sylvain lui dit, mais qu'est-ce que tu lui reproches?
Elle est gentille, intelligente, sérieuse, issue d'une famille respectable, connue de ma mère.
Jules ne dit rien.
Sylvain lui dit, tu voudrais que je me marie avec qui de mieux?
Jules a envie de lui dire, avec personne.
Il lui dit, tu ne trouves pas que ça sent l'arrangement, que tout est fait pour que tu te maries avec elle?
Sylvain lui répond,
mais si cela est, quelle importance?
Je lui dis, ça ne te gêne pas d'être traité comme un pantin?
Tu exagères tout de même.
Je sais que ma mère serait heureuse de nous voir mariés, mais de toute façon, tant mieux si mon mariage rend tout le monde heureux.
Jules voit qu'il n'y a rien à faire, il lui dit, tu as raison, je suis ridicule. Je pense à toi comme si tu étais mon frère et je m'inquiète de ton avenir.
C'est un peu normal.
Sylvain lui sourit et lui dit, tu es gentil.
Jules souffre à en mourir. Jour et nuit, pense à Sylvain, qu'il va perdre. Ne peut plus travailler, se distraire, il maigrit, aimerait mourir. Lorsqu'il est avec Sylvain, ce qui est de plus en plus rare, il lui cache son état, mais son ami le voit et lui demande, tu es malade? Je te trouve tout triste.
Tristomine, qu'est-ce que tu as?
Rien. Un peu fatigué, ce n'est rien.
Fais attention, tu devrais voir un médecin.
Tu ne le fais pas?
Je le ferai.
Ce que vient de dire Sylvain chauffe le corps de Jules. Il se dit, il m'aime tout de même, il tient à moi. Il n'est pas tout entier à elle, j'ai une place dans son corps. Il lui dit, je te promets de faire attention à ma santé. 2 mois plus tard, Jules apprend par Sylvain qu'il est invité à une petite soirée qui servira à annoncer ses fiançailles.
Je compte sur toi, tu es mon seul ami. Et pour ce qui est du mariage, tu seras mon témoin.
Je lui dis, je suis très flatté et fier. Merci.
Je t'aime beaucoup et je te souhaite beaucoup de bonheur.
La soirée a lieu chez la mère de Sylvain. Il y a quelques parents à la famille et les représentants de la famille de la jeune fille. Un petit orchestre joue quelques airs à la mode. Un buffet pour les amuse-gueules et les boissons. Jules est, pour ainsi dire, le seul étranger et ami. Il a décidé, avant de partir, de faire bonne figure. C'est de paix au sucre, antidépressif et après un verre de bourbon. Lorsqu'il arrive, Sylvain court vers lui, le prend par la taille et le mène à sa fiancée qui est très belle dans sa robe rose pâle. Jules a chaud au corps à cause de la façon dont Sylvain s'occupe de lui, lui serre le bras. L'on sent qu'il est fier et heureux et tient à lui.
Patricia, mon ami, Jules Beaumandin, je crois que vous vous êtes déjà vu.
Oui, je me souviens, enchanté, Sylvain ne fait que parler de vous.
La soirée se passe bien. Sylvain présente Jules à tous.
le fait boire, manger. Patricia est aux petits soins avec lui. Elle le fait danser plusieurs fois. Jules, avec tous ses gens, toutes ses gentillesses, l'alcool, la bonne humeur, oublie sa tristesse et se laisse aller. Lorsqu'il va partir, à 5 heures du matin, Sylvain lui dit « Je tiens à ce que nous nous passons une soirée entre nous, toi, moi et Patricia, pour que tu puisses mieux la connaître. » Je lui dis « Oui, cela me ferait très plaisir. Je te remercie. Cela me ferait très très plaisir. » Et il s'en va. Satisfait de sa soirée, Sylvain a été merveilleux, merveilleux avec lui. Radio Canu vous a présenté dans la série d'écrans radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 36e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.